Radio Okapi. Okapi.
Okapi Service, du lundi au vendredi, de 9h à 11h, heure de Kinshasa, avec Jody Daniel Kachama. Okapi.
Bienvenue dans cette deuxième tranche du magazine de la vie au quotidien au Capi Service. C'est un plaisir de vous retrouver encore dans cette émission. Merci à vous tous qui nous suivez sur www.radiocapi.net. Eh bien, nous allons parler à présent de l'impact des projets réalisés par ANSER auprès des communautés locales. Eh bien, l'ANSER, c'est l'Agence nationale de l'électrification et des services énergétiques en milieu rural et périurbain. Nous recevons aujourd'hui Monsieur Damien Twambilanga. Il est le directeur général adjoint à ANSER. Monsieur Damien, bonjour.
Bonjour.
Ah, j'ai l'impression que je n'ai pas bien prononcé les noms de voilà. Monsieur ANSER. Voilà. Monsieur Twambilangana, voilà, là ça va. Et puis nous avons également dans ce studio Madame Soraya Aziz, elle est directrice des communications et des mobilisations des partenaires à ANSER. Bonjour Madame Aziz. Bienvenue dans cette émission de la vie au quotidien. Vous voulez participer? Eh bien, le standard est déjà ouvert. Composez le 099-706-9941. Écrivez-nous à service@radiookapi.net. Et laissez un commentaire sur la page Facebook de l'émission Okapi Service. Polydor Bansung à la mise en onde. Tati Mapoukou assure la coordination et la réalisation au micro. Jody Daniel Kachama sous la supervision de Jean-Marc Matouaki. Bienvenue à tous. Excellente condition d'écoute du magazine de la vie au quotidien. Bienvenue dans cette émission de la vie au quotidien. Nous allons parler à présent de l'ANSER. Eh bien, vous savez, la RDC figure parmi les pays ayant le plus faible taux d'électrification. Moins de 10% de la population congolaise a accès à l'électricité, 35% dans les zones urbaines et moins de 1% dans les zones rurales, selon la coalition des organisations de la société civile pour le suivi des réformes et de l'action publique, CORAP, en sigle. Alors, pour augmenter les taux d'accès à l'énergie électrique, en milieu rural, le gouvernement congolais a créé depuis 2019 l'Agence nationale de l'électrification et des services énergétiques en milieu rural et périurbain, ANSER, en sigle. Alors, 4 ans après, quelles sont les réalisations de cette agence par rapport à l'accès à l'électricité? Eh bien, nous recevons le directeur général adjoint d'ANSER. Il s'agit de l'ingénieur Damien Twambilangana. Monsieur Damien, encore une fois, bonjour.
Bonjour, mon frère.
Alors, nous parlons d'ANSER. C'est quoi ANSER?
ANSER, c'est comme vous l'avez dit, l'Agence nationale d'électrification et services énergétiques en milieu rural et périurbain, évidemment avec la mission de la promotion et financement de l'électrification rurale et périurbaine.
Bien. Alors, cette structure a été mise en place depuis, je crois, 2019. À ces jours, dites-nous quelles sont les réalisations, qu'est-ce qui ont été réalisé jusqu'aujourd'hui.
Ben, en réalité, la structure a été déjà créée par des textes depuis presque 8 ans, mais okay. Elle a été activée il y a à peine 3 ou 4 ans, hein, avec l'arrivée du président Félix Tshisekedi. Mm-hmm. À son activation, la première chose, c'est clair, il faut la planification. N'est-ce pas? Il faut la planification. On fait un état des lieux. C'est de là, évidemment, que nous avons une idée du taux d'électrification, de la configuration d'accès à l'électricité dans les zones rurales et périurbaines. Et donc, il faut planifier pour savoir quelle stratégie mettre en place, effectivement, pour pouvoir électrifier nos 145 territoires, parce que, évidemment, c'est ceux-là qui nous intéressent particulièrement. Donc, c'est d'abord la planification.
Mais c'est une tâche énorme, hein, c'est électrifier...
Oui, c'est énorme.
L'ensemble du pays.
Ben oui, vous savez, 80% de nos populations vivent dans les 145 territoires, dans les zones rurales périurbaines. Mm-hmm. Et puis, vous avez cité tout à l'heure, le taux, c'est 1%. Hein, c'est très 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 peu.
C'est très faible.
Très faible. Et qui dit faible taux d'électrification dit aussi sous-développement aigu. Quoi,
Bien sûr.
Donc, plus on accède à l'électricité, ça c'est démontré, plus le développement arrive. Mmh. Donc, après cette planification, évidemment, on met en place la stratégie. Hein, c'est-à-dire, aujourd'hui, au moment où nous parlons, nous avons construit ce qu'on appelle des plans locaux d'électrification. C'est-à-dire, nous savons très bien, territoire par territoire, quelle stratégie appliquer, parce que nous savons aujourd'hui quel potentiel ressources naturelles existent, les eaux, le vent ou le soleil, l'ensoleillement. Mmh. Et puis, deuxièmement, nous savons quel potentiel économique est dans le territoire. Parce que pour nous, la stratégie d'électrification, c'est à la fois électrifier, mais c'est en même temps aussi se rassurer que l'électricité ait un impact socio-économique. Donc aujourd'hui, ce plan est fait et nous sommes passés, c'est clair, à la mobilisation des moyens financiers, parce que dès qu'on a identifié des sites, on a fait des projets, on a fait des études, mais il faut en chercher des moyens financiers. Donc on a mis en place.
Au total, vous avez près de 200 quelques projets à réaliser.
Non, il y en a 970 dans le grand pipeline. Mais maintenant, nous avons ce qu'on appelle le programme d'investissement prioritaire, d'où nous avons extirpé 270 projets, estimés à plus ou moins 750 millions de dollars. Et de ces 270 projets, nous avons extirpé encore 49 projets qui sont en cours. Nous avons aujourd'hui 49 chantiers sur la République démocratique du Congo, au travers de nos 145 territoires.
D'accord. Alors, parlez-nous déjà des... Vous avez 49 projets qui sont déjà en train d'être exécutés ou qui sont déjà complètement
Il y en a une dizaine qui sont complètement terminés. Donc, maintenant, il reste à connecter. Parce que là, on teste. On a connecté quelques ménages pour le test. Et il y en a une trentaine qui sont en cours. C'est des chantiers opérationnels qui peuvent être visités, évidemment, par la population.
Mmh. Parlez-nous, par exemple, des 2, 3 ou 4... Quatre chantiers.
Oui, mais
dans
quelle
partie du pays,
oui,
par
mais
exemple?
Nous avons commencé ici par Bungayasa, Ipamu, Kilembe dans le Grand Bandundu, mm-hmm. où là c'est déjà opérationnel, hein, c'est déjà opérationnel. Nous avons aujourd'hui terminé au mois de décembre la centrale de Chikapa et Kamonia, c'est déjà opérationnel. Tout ce qu'on fait actuellement, c'est tester avec quelques ménages, voir si le système techniquement répond. Aujourd'hui, nous sommes aussi à Lumumbaville, hein, Lumumbaville à Wembonyama, où la centrale est terminée, donc on est dans les tests.
Et puis hydroélectrique.
Ça c'est des centrales solaires.
Solaires.
Alors dans les technologies utilisées, oui, il y a le solaire, l'hydro, et puis il y a le soutirage. Aujourd'hui, on réfléchit aussi aujourd'hui sur le biogaz. Mais en termes de soutirage, aujourd'hui à Ndjili Brasserie, on a fait un soutirage. Soutirage, c'est lorsque une ligne quitte un point A vers un point B, on peut créer un point X au milieu et soutirer l'électricité et desservir la région, la population qui habite dans la zone X. Hein, c'est un peu comme, vous voyez, la ligne Inga Shaba, comme on appelait à l'époque, elle traverse le Kasaï.
Le Kasaï pour...
Et voilà, pour le Katanga. Pour le Katanga, et le Kasaï, il n'y a rien. Mais c'est clair que c'est vrai, on parlait de soutirage à l'époque, à Chimbulu et consorts, mais à l'époque, c'était trop cher. Hein, ça coûtait, la technologie coûtait cher. Mais aujourd'hui, la technologie est abordable. C'est ainsi qu'on en a réalisé, on a un soutirage en Ndjili Brasserie.
Mais si on fait un soutirage, est-ce qu'il n'y aura pas un déficit par rapport à la quantité d'énergie attendue au bout pour faire fonctionner les machines?
Non, mais pour faire un soutirage, il faut se rassurer que la quantité est suffisante. Déjà, à la source, que tout se passe bien et qu'en amont, nous avons encore un reliquat. Hein. Donc, on fait pas le soutirage pour surcharger le système, mais on fait le soutirage pour pouvoir desservir la zone concernée, mais en se rassurant que techniquement, tout est bon.
Bien, nous parlons de l'impact des projets réalisés par Anser auprès des communautés locales. Alors donc, on retient qu'il n'y a pas que l'hydro, vous utilisez même les énergies propres, le solaire particulièrement.
Ben, l'hydro, c'est déjà une énergie propre, hein. Il y a aussi le solaire, okay. Il y a aussi le soutirage. Aujourd'hui, on réfléchit même sur le biogaz, c'est-à-dire comment valoriser des déchets, produire du méthane et à partir du méthane, favoriser la cuisson propre et favoriser l'électrification aussi.
Donc dans les régions que vous avez citées, les gens ont déjà, il y a, on peut dire que dans certains, dans les, par rapport aux 10 projets dont vous avez parlé, les gens ont déjà du courant.
Ah oui, oui, oui.
L'électricité chez
eux. Oui, si vous allez par exemple à Camonia, je parlais de tests, hein, mais nous avons une cinquantaine de ménages, d'abonnés qui sont connectés. Et d'ailleurs, c'est gratuit pour le moment, mais c'est pas gratuit pour la suite. C'est gratuit à pendant 3 mois parce que nous devons tester les systèmes. Mais les 50 abonnés, c'est des ménages, c'est des écoles, c'est des industries, hein, c'est toutes les catégories en fait d'usagers, hein, les projets d'usage productif, les institutions communautaires comme les centres de santé et puis les abonnés, enfin les ménages habituels. Donc on a les 3 catégories et on teste, on essaie de voir comment techniquement ça se passe, est-ce que le système tient, est-ce qu'il faut améliorer, et pour l'instant tout se passe très bien. Mais au-delà de ça aussi, nous avons il y a un outil très important au sein de d'Anser, le fonds Mwinda. J'en parle parce qu'effectivement, avec les centrales que nous avons construites, nous, en tant que l'État, on gère pas. Donc, on essaie de positionner des privés, des sociétés privées pour gérer. Et vous savez, une société privée pour aller, par exemple, habiter Camonia, ça l'intéresse pas. Les gens sont pauvres, ils payent pas.
Ils vont pas payer, voilà. Il va pas faire de bénéfices.
Oui, mais par rapport à ça, nous étudions, nous faisons au départ déjà une sorte de business plan, une étude socio-économique pour comprendre la capacité à payer déjà des populations. Et supposons que la capacité est de 20 centimes, par exemple, par kilowattheure. Et que la société qui vient exploiter se dit, dans mon business plan, la rentabilité n'est possible que si je vends à 50 centimes le kilowattheure. Avec le fonds Mwinda, nous pouvons suppléer, c'est un fonds de subvention. On peut lui donner les 30 centimes. Comme ça lui permet d'être tranquille, à l'aise avec son système qui est rentable. La population est tranquille aussi parce qu'elle paye ses 20%. Et nous sommes tranquilles parce que nous atteignons nos objectifs. Nous avons des ménages qui sont connectés. Et ça, c'est un indicateur déterminant pour nous.
Alors, si je comprends bien, Anser est beaucoup plus dans la production. Mais tout ce qui concerne la distribution, tout ça, ça c'est vous travaillez avec des partenaires privés.
Non, mais en fait, nos projets sont complets. Nous, on construit pas. Lorsqu'on lance des appels d'offres, on identifie... On positionne des sociétés privées qui viennent construire. Et quand ils ont construit, ils nous remettent les installations. Mais dans tous nos projets, il y a la production, il y a le réseau. Hein, ils construisent, ils mettent directement le réseau. Et lorsque la société qui veut gérer vient par la suite, évidemment, par des mécanismes de délégation des services, en ce moment-là, la société peut à elle seule aussi établir une stratégie de branchement, hein, par la suite. Mais sinon, donc, nos projets sont complets. C'est la production, c'est la distribution, et voilà le transport.
Bien, nous parlons aujourd'hui du projet Anser. Quel impact déjà, 4 ans après? Nous avons des auditeurs qui veulent poser des questions. Et puis, je vais donner la parole tout à l'heure à Madame Soraya Aziz. Nous avons Justin Koulou qui nous appelle des Fungurume. Il y a Norbert qui est à Kananga. Et Charles Alboumbashi. Justin Koulou, bonjour.
Bonjour, Monsieur Jody. Et je dis bonjour à tous les auditeurs de la Radio Capi, ainsi que nos deux invités qui sont au studio aujourd'hui.
Bien, quelle est votre préoccupation?
En tout cas, je suis très content, mais laisse-moi d'abord vous faire parvenir ma colère. Ici à Fungurume, vos radios partenaires ne vous ont pas encore relayé. Donc, je me suis déboué pour avoir les sujets. Peut-être que je ne suivrai pas le commentaire.
Ça, oh, c'était... dommage.
Oui, oui. En tout cas, je suis très heureux aujourd'hui et je jette des bouquets de fleurs aux partisans de l'émission. Il y a à boire et à manger ici à Fungurume où nous sommes. À ma propre connaissance, je sais que les installations que nous avons aujourd'hui pour produire l'électricité étaient faites pour alimenter les usines des fonderies, des minerais, ce que nous avons en général ici. Et ils devaient aussi donner la lumière à ces travailleurs dans des camps et ainsi de suite quand la démographie était encore stable. Comme on est, il y a eu une explosion démographique et la population aussi s'est raccordée et sur-raccordée, qui a donné la force à SNEL qui se prend comme un roi dans son camp aussi, dans son secteur. Il n'y a pas longtemps ici à Fungurume, on a donné des transferts de secours par la société telle que Fungurume Mining. Et après avoir installé, il a remis les clés à l'ESNEL. et l'ESNEL qui a privé presque deux ans à la population qui devrait en bénéficier suite aux conditions qui étaient inaccessibles et les taux de paiement forfaitaire qui montaient de temps en temps. On a eu
Justin, quelle est la question? Bon, ici, aujourd'hui, il ne s'agit pas de la SNEL. Hein, on parle du projet Anser. Quelles sont vos questions, quelles sont vos préoccupations que vous adressez aux invités qui sont là?
J'y arrive. C'est là, derrière là où je devais toucher déjà les mots.
D'accord, ouais, allez-y.
Nous avons eu un monsieur de la société civile qui s'est ergé en barrière pour barrer les tarifs forfaitaires ainsi que les méfaits de ce genre-là à la population qui bénéficiaire du don. Alors, est-ce que avec lui, je vois que les procédures et les projets viennent trancher les conflits entre l'ESNEL et la population qui ne cessait de se proférer des injures. Et même nos enfants sont habitués que nos enfants, les gens de l'ESNEL, sont des chiens et des animaux.
Bien, Justin, quelle est la question? Jusque-là, vous n'avez pas de questions. Merci d'avoir appelé quand même. Norbert Kabwanga, vous êtes à Kananga. Bonjour.
Bonjour, Jody, Daniel Pachama. Bonjour, aux invités de Radio Capi. Bonjour aux invités également.
Qu'est-ce que vous avez à nous dire à propos du projet Anser?
C'est une très bonne question. Sinon, nous avons salué les initiatives du président de la République pour connecter les villages au centre urbain en vue d'influencer sur le déplacement des populations qui vont vers les centres-villes. Mais nous déplorons néanmoins le lenteur dans l'exécution de ces travaux par les agences d'exécution de ces travaux. Et je peux vous donner par exemple l'exemple type de notre territoire de Jibaya, où nous avons la cité de Chimbulu, il n'y a quasiment pas d'électricité, ni encore moins d'éclairage. Et la cité de Kampone, de Kamtana, n'en parle. Donc, c'est pour faire allusion qu'il n'y a pas aucun signe de vie de la présence de l'agence Anser qui fait ses travaux.
Oui.
Et pendant que nous avons déjà plus de 4 ans consommés. Et nous demandons quand est-ce que Anser pourra se dépasser pour nous donner l'électricité, le courant dans le milieu rural pour pallier à certaines difficultés ménagères.
Bien, merci Norbert. Charles, vous êtes à Lubumbashi, bonjour.
Oui, bonjour, monsieur Jody, bonjour aussi aux invités.
Quelle est votre question?
Oui, chers invités, est-ce que les projets Anser est délégué aussi présent ici à Lubumbashi, pourquoi pas dans les Haut-Katanga en général? Parce que jusque-là, je ne sais pas vous informer sa présence. C'est à vous un peu de nous préciser. Et puis, pourquoi intéressez-vous seulement aux milieux ruraux? Et pourtant, même dans les grandes agglomérations ici, Monsieur Jody, c'est rien que le nom, la présence de l'énergie électrique. Mais nous sommes victimes, nous subissons des délestages sans fin. En réalité, allez-vous comprendre la deuxième ville, théoriquement, qui est Lubumbashi, mais il y a de ces quartiers-là qui n'ont jamais vu l'énergie électrique, et surtout les quartiers-là nouvellement lotis. Est-ce que les projets Anser ne peuvent pas aussi venir vraiment au secours de cette population-là qui vous souffre comme ça? Et pour terminer, est-ce que il y a la capacité que de ces courants-là, parce que nous assistons souvent, il y a d'autres services qui vont vous obliger de désallumer les ampoules pendant la journée et de les allumer rien que pendant la nuit. Et vous verrez qu'on vous oblige même de ne plus utiliser les objets comme les congélateurs, des frigos, des consorts, des postes à souder.
D'accord.
Est-ce que les projets Anser aussi à de telles conditions-là, ou bien ça s'est fait comment?
D'accord,
voilà,
merci.
Un peu tout ce que je voulais savoir de leur part.
Bien, merci à tous les auditeurs pour vos préoccupations. Madame Aziz Soraya, vous avez la parole.
Merci beaucoup. Donc, je voudrais d'abord commencer par retracer un peu la place institutionnelle de l'Anser dans l'écosystème, parce qu'on a vu Le premier intervenant avait une question sur la SNEL. Et cette question est posée à l'ANSER. Il y a une petite confusion des fois. C'est-à-dire, quand on a libéralisé le secteur en 2014, le gouvernement et le législateur ont créé l'ANSER, qui est l'Agence de l'électrification rurale et périurbaine, et l'ARE, qui est l'autorité de régulation. Alors, ces deux organes, avec évidemment le ministère des Ressources hydrauliques et l'électricité, s'occupent de la partie politique, planification, financement des projets du gouvernement, pendant que la SNEL et d'autres opérateurs privés s'occupent de la partie opération, la partie des projets eux-mêmes. C'est-à-dire...
Bien, on va continuer dans quelques instants. Le temps de... Voilà, de... Oui, vous étiez en train de parler, il y a eu quelques réaménagements techniques, allez-y.
Oui, donc je disais que la SNEL aujourd'hui est un opérateur, comme tous les autres opérateurs, mais c'est un opérateur public. Donc, mais il n'a plus la charge de la partie politique, la partie planification, comme Monsieur Damien le disait tout à l'heure.
Oui.
Au jour d'aujourd'hui, est-ce que l'ANSER peut aller dans les milieux qui ne sont pas périurbains ou ruraux? Non. Comme le nom l'indique, on ne va que dans les milieux ruraux et périurbains pour la simple raison que pendant tout le temps où la SNEL avait le monopole de la distribution de l'électricité, elle a développé un plan pour connecter les milieux urbains, mais elle n'avait pas de plan pour les milieux ruraux et les milieux périurbains. Les villes ont grandi. On voit à Lubumbashi, par exemple, la commune annexe, c'est une nouvelle commune. Mm-hmm. Cette commune n'était pas dans la planification de la SNEL au départ. Oui, peut-être pour ce genre d'endroit. Ici, à Kinshasa, Njili Brasserie n'était pas dans la planification de la SNEL, le quartier Union Européenne, comme on dit. Mm-hmm. Il n'était pas dans la planification de la SNEL. Oui, l'ANSER peut aller dans ce genre de milieu. Mais en gros, tout ce qui concerne les villes, et nous en avons 33 en RDC, cela ne concerne pas l'ANSER, que ce soit dans la planification ou dans l'approvisionnement en électricité. Mmh. Les milieux ruraux et périurbains concernent l'ANSER pour ce qui est de la politique, la planification, le financement, mais on le fait par le truchement des entreprises. Et souvent, d'ailleurs, nous travaillons avec la SNEL. Nous avons près de 5 projets de soutirage qui seront exécutés par la SNEL, mais nous avons aussi d'autres partenaires, de plus en plus de partenaires, parce que le milieu... des investissements dans le secteur de l'électricité de la RDC a beaucoup évolué dans les 10 dernières années et aujourd'hui on a plus que quadruplé le nombre d'opérateurs qui sont capables d'intervenir dans ces différents segments. Alors, on constate une lenteur dans l'exécution, oui. Voilà. Comme un peu dans tous les secteurs des services dans tous les services publics de l'État, il y a un manque cruel de financement dans l'électricité. L'électricité, c'est une commodité qui se vend. Donc, il y a un marché de l'électricité et c'est pour ça qu'on fait appel à plusieurs entrepreneurs privés pour financer le secteur. Mmh. Au jour d'aujourd'hui...
D'ailleurs, vous êtes chargé de la mobilisation. C'est la mobilisation des fonds, des partenaires, c'est ça?
Les deux, oui. Donc, on fait des levées de fonds au niveau international, au niveau national aussi, de plus en plus. Mmh. Au jour d'aujourd'hui, le financement sur lequel nous travaillons, c'est un financement à 100% du gouvernement congolais, du budget de l'État. Il faut le souligner, c'est sans précédent. Le gouvernement congolais n'a jamais fait ça par le passé. Et nous espérons pouvoir doubler, tripler, quadrupler les investissements qui viennent avec un supplément du secteur privé. Mais le climat des affaires au Congo, il n'est pas encore là où on voudrait le voir. Et donc, les investisseurs sont encore un peu frileux. Mmh. Mais avec les bons exemples que nous avons déjà jusqu'à présent, des projets qui marchent, des ménages qui payent leurs factures et là où les ménages ne peuvent pas payer leurs factures, la subvention de l'État qui intervient. Mmh. Il y a plusieurs projets pilotes qui ont prouvé que ça marche. On est en train de passer à échelle et avec tout ça, nous avons de plus en plus de personnes qui viennent et donc cette lenteur qui a été constatée dans les années précédentes va aller on va dire de plus en plus, on va avancer de plus en plus rapidement, mais il faudra quand même être patient parce que au jour d'aujourd'hui, on parle d'un taux d'électrification de 21% déjà.
Et on est déjà à 21%.
On est déjà à 21%, ce sont les chiffres officiels de la RDC et confirmés par
par les enquêtes de la Banque mondiale et d'autres partenaires internationaux.
Mais c'est toujours...
Ça veut quand même dire qu'il y a à peu près 80% de nos compatriotes qui n'ont pas accès à l'électricité et cela doit changer très rapidement. Mmh. On compte atteindre la couverture universelle d'ici 2045. C'est ça que la politique nationale de l'électrification dit. Et pour en serre, l'objectif, c'est vraiment 50% de taux d'électrification d'ici aux horizons 2030. Tout à fait, oui.
Ingénieur Damien, vous avez autre chose à ajouter par rapport à cela?
Oui, merci. Je voudrais plutôt rebondir sur une question posée par Monsieur Norbert, de nos auditeurs, à Kananga. Qui a posé une question précise concernant le territoire de
Dibaya, Chimbulu, Kampone, qui sont pas électrifiés.
Je voudrais déjà rassurer que nous avons un plan pour chaque territoire. Bon, là, on parle de Dibaya et spécifiquement de Chimbulu, mais nous avons déjà des travaux lancés sur Chimbulu. Il est très important que nos compatriotes puissent effectivement s'approprier de tous ces projets. À Chimbulu, nous avons déjà lancé des projets de construction d'une centrale solaire sur deux sites différents d'ailleurs, et les travaux sont en cours. Mmh. Et je recommande vivement à notre ami d'approcher par exemple la mairie, parce que Chimbulu c'est aussi une commune rurale aujourd'hui, donc d'approcher la mairie et ils vont tout simplement lui indiquer où les travaux se font. Ça permettra effectivement aussi que ça puisse le rassurer. Mais au-delà de ça, à Kananga même, nous avons finalisé aujourd'hui la centrale solaire de Kananga et le site se trouve vers l'aéroport. Nous encourageons beaucoup.
Vers l'aéroport de Kananga.
L'aéroport de Kananga. Donc la centrale est terminée. Nous poursuivons parce que ça c'est le premier volet. Il y a un deuxième volet qui va continuer. Et nous encourageons nos frères à pouvoir y aller, regarder ce qui se fait, encourager les travailleurs qui sont là.
Il y a au moins combien de panneaux solaires qui sont installés?
Non, mais là-bas nous développons. Ce qu'on a installé à l'aéroport c'est plus ou moins 200 kilowatts. Et considérez que 1 kilowatt c'est plus ou moins 5... Non. 1 kilowatt c'est plus ou moins 5 mètres carrés, et si un seul panneau on parle en termes de 1000 mètres carrés de panneaux et des surfaces de panneaux, et si un panneau représente plus ou moins 2 mètres carrés, donc vous avez une idée, on a plus ou moins 500 panneaux qui sont installés, plus ou moins sur place.
Ouais, c'est énorme.
Et ce n'est pas terminé. Donc et à Kananga, nous allons poursuivre encore avec 800 kilowatts que nous allons compléter toujours sur le même site pour essayer de desservir jusque dans le périphérie de Kananga. Mais au-delà de ça, il y a aussi le projet Mbombo. On parle toujours du Kasaï Central parce que monsieur a posé la question sur cette zone-là spécifique. Mmh. Il y a la centrale hydroélectrique de Mbombo qui devrait être implémentée, en tout cas lancée dans les mois qui arrivent parce que les études sont en train...
À Kananga, c'est le site de Kamai, c'est ça?
Kamai, c'est Kamai. L'appellation globale. Hein. D'accord. Mais alors, c'est la zone. Alors, mais le site lui-même se trouve vraiment dans la concession de l'aéroport. Mmh. Alors, j'étais en train de parler de la centrale hydroélectrique de Mbombo qui est très attendue à Kananga, qui amène 12 mégawatts. Et ça, les études sont finalisées, l'entreprise a été identifiée et Anser prend très au sérieux ce projet. Nous demandons à la population de s'en approprier. Une autre question avait été posée sur la dimension technologique, hein, parce qu'il y a une personne qui s'inquiète en se disant, est-ce que la technologie que nous amenons, est-ce qu'elle est pérenne, est-ce qu'elle permet d'utiliser tout? Eh bien, nous, quand on fait les dimensionnements, même quand c'est des solaires, c'est des mini-réseaux isolés, en fait, c'est aussi avec des stockages, en dehors des panneaux qui fonctionnent quand il y a du soleil, mais nous avons des stockages qui sont dimensionnés, des batteries, hein, qui sont dimensionnées de manière à ce que l'électricité soit disponible 24 heures sur 24.
Est-ce qu'on peut utiliser les fours, on peut utiliser les fers à repasser, les congélateurs avec cette énergie-là?
On peut utiliser tout ça, si cela est pris en compte dans le dimensionnement. Okay. Lorsque nous faisons nos projets, je l'ai dit tout à l'heure, électrifier c'est une chose, mais il faudrait que cette électrification ait un impact socio-économique. Et cela arrive lorsqu'il y a des projets d'usage productif développés. Mmh. Et les projets d'usage productif, c'est tout ça, ce sont des petites industries. Alors quand on fait un dimensionnement, on prend en compte tous ces besoins-là et on dimensionne en fonction de cela.
Bien, on va accueillir Emmanuel Fala de Bounia. Bonjour Emmanuel.
Bonjour monsieur, je dis Daniel Kachamo et puis bonjour à nos invités qui sont sur place au plateau.
Bien, quelle est votre préoccupation par rapport au projet Anser, le projet d'électrification en milieu rural?
Justement, je suis au très quota par rapport à la thématique du jour. Je disais, pour moi, ce projet Anser viendra ajouter un rôle capital aussi longtemps que le pourcentage est encore très faible concernant la consommation à l'électrification à République démocratique du Congo. Alors, quand cela ne tienne, j'ai deux petites questions à poser à nos invités. La toute première question est celle-ci. Quel est le bilan de ANSER, puisque l'invité a dit cette structure a existé depuis 2019 au bel et bien. Alors, quel est le bilan jusqu'à présent de ANSER? Ensuite, la deuxième question, quelle est la durée de ce projet? Et je me retrouve qu'ils sont logés beaucoup plus, ce projet, dans des milieux périurbains. Mais il fallait aussi voir aussi les milieux urbains tels que nous ici à Bounia, avec les centres électroniques de Boudan, ça ne va pas. S'ils peuvent aussi réviser, au lieu de s'occuper aussi dans des territoires, nous aussi dans, tels que dans la ville de Bounia, ça sera une bonne chose. Voilà ma préoccupation par rapport à la thématique du jour. C'est Emmanuel Fala depuis la ville de Bounia. Merci beaucoup.
Bien, on va accueillir Malonga de Kinshasa. Bonjour.
Oui, rebonjour aujourd'hui et bonjour à notre invité.
Qu'est-ce que vous avez à nous dire, Malonga?
Oui, en tout cas, je félicite d'abord ce projet. Mais je demande aux propriétaires de produits d'étendre ça dans tout l'étendue du pays. Puisque vous savez que la population congolaise est fournisseur de l'électricité, puisque ceux qui utilisent Linga ailleurs, ils considèrent que toute la population bénéficiait de ça. Mais dommage. Comme ce projet-là, c'est mieux de le faire étendre. Est-ce que je vais vous narrer ce qu'un ingénieur, c'est inutile de citer son nom ici, il m'avait dit concernant le courant et les infrastructures routières. Il dit que, est-ce que Malonga, vous savez que les routes, s'ils étaient opérés, on avait fait les routes, ce n'était pas pour la population. Les routes sont des projets étatiques. Alors la population bénéficie seulement de passer à ça.
Oui, monsieur Malonga, vous demandez à ce qu'on puisse étendre. Monsieur Malonga, vous voulez qu'on puisse étendre le projet en serre partout, mais il y a la SNEL aussi qui est là dans les milieux urbains.
Oh, ça, ici chez moi, là chez nous, bonne nouvelle.
Bon, je sais pas.
Non, moi je suis de là, mais je suis témoin.
Hein? D'accord.
Les villages sont souffrants de là-bas. Raison pour laquelle je déclare ça. À Banouville, oui, à Banouville, nous avons l'électricité d'Inga, mais moins bénéficiaire aussi à la population. Raison pour laquelle je vous racontais que celui-là nous avait dit que l'électricité, ce n'est pas pour la population, c'est pour les industries et c'est pour l'État. Alors la population, si vous bénéficiez ça, c'est seulement comme ça. Alors si ce projet-là, en tout cas, c'est bénéficiaire pour nous, et nous l'accueillons. Alors, le propriétaire doit fournir l'effort. Raison pour laquelle mon compatriote, je m'allie à lui de nous donner le bilan. Est-ce qu'il va se freiner seulement dans une même place? Oh, la République vraiment souffre.
D'accord. Merci beaucoup, monsieur Malonga, depuis Kinshasa. Roger Marcel, vous êtes également à Kin. Bonjour.
Bonjour, monsieur Tassu, et bonjour à nos invités.
Quelle est votre question rapidement, Roger?
Monsieur, je dis que vous savez quand même, on salue quand même l'initiative de nos concitoyens, parce qu'aujourd'hui, ce que nous constatons, aujourd'hui en République démocratique du Congo, où les taux d'électricité vraiment posent vraiment un grand problème, nous sommes vraiment à 30%, donc c'est un niveau vraiment très bas. J'ai suivi un peu les invités en train de dire quand même qu'il y a eu quand même quelques avancées sur terrain. Et moi, je pourrais poser la question à nos invités parce que je viens de les écouter plus de suite là, parler de la province du Kassai central. Parce qu'il y a eu dernièrement une association de jeunes qui était venue ici pour demander au chef de l'État si on ne pouvait pas continuer avec le Chit 4 et on pouvait quand même entamer avec le Chit Mbombo où les travaux jusqu'à l'heure n'évoluent pas toujours. Parce que pendant le premier mandat du chef de l'État, il avait prévu quand même que quand on pouvait être éclairé, c'est ce qui ne s'est pas passé au premier mandat. Je pense avec le deuxième mandat quand même que ça peut se faire évoluer quand même. Je pourrais demander quand même que nos invités puissent faire un peu un plaidoyer ou bien faire un peu quelque chose sur terre. Parce que dans d'autres provinces aussi, les taux d'électricité posent toujours un grand problème.
Bien, merci Roger Marcel. Nous parlons aujourd'hui de l'impact des projets réalisés par ANSER dans les milieux ruraux et périurbains. Madame Soraya Aziz, vous avez la parole. Qu'est-ce que vous pouvez dire à ces auditeurs?
Je voudrais dire que par rapport au bilan, nous avons un bilan positif. On n'a pas atteint les objectifs parce que nous avions des objectifs sur 5 ans, sur 10 ans, sur 20 ans. Nous n'avons pas encore 5 ans. Mmh. Mais déjà, à mi-parcours, on peut dire que le bilan est positif. Pourquoi ? Parce que nous avons réussi à tester des nouvelles technologies. Ça n'avait jamais été fait avant. Nous avons réussi à mettre en place des centrales et à connecter des ménages. Et nous avons participé avec d'autres acteurs du secteur à rehausser le taux d'accès à l'électrification. Ce sont des efforts qui vont continuer. Un bilan concret, c'est d'abord ces 49 projets dont nous avons parlé, dont 10 ont déjà été livrés et à peu près 30 autres, on va dire plus ou moins, qui continuent à être... qui sont en construction. C'est aussi le fonds Mwinda qui réussit aujourd'hui avec plus ou moins 10 entreprises à mettre en place des fonds de subsides pour que les personnes qui avaient accès à l'électricité mais qui n'avaient pas les moyens de payer leurs factures puissent quand même être connectées. Donc là, on voit le segment le plus pauvre de la population. Ça, c'est un bilan vraiment positif. La deuxième chose que nous avons réussi à mettre en place, et Monsieur Damien en parlait tout à l'heure, c'est avoir un plan. Comme on le dit toujours, le gros du travail, c'est d'abord la planification. Oui, quand on sait exactement où on va, ça nous permet d'y aller plus vite. Et aujourd'hui, nous avons un plan d'électrification avec les différents acteurs à différents niveaux qui ont été identifiés. Cela est aussi en place. On comprend le désarroi de la population et son impatience. On comprend aussi la frustration de ceux-là qui sont en ville, de ne pas nous voir arriver assez rapidement.
Parce qu'ils n'ont pas d'électricité.
Mais nous voulons les appeler à la patience, parce que dans le plan national de l'électrification, nous ne nous occupons que de la partie rurale et périurbaine, mais il y a des institutions qui s'occupent de la partie urbaine. Et donc, l'effort que nous sommes en train de voir en milieu rural va avoir un impact direct et positif sur les milieux urbains et périurbains. Alors, l'ANSER, ce n'est pas un projet. On peut pas parler du projet ANSER. L'ANSER, c'est une agence permanente qui va rester aussi longtemps que le législateur voudra que cette agence reste.
Et au sein de l'ANSER, projet d'électrification.
Voilà, au sein de l'ANSER, nous avons maintenant différents projets. Il y a des projets de construction des centrales solaires dont Monsieur Damien a parlé. Il y a des projets de distribution des kits solaires dans des zones où la densité de la population ne permet pas qu'on construise une centrale. Il y a des projets d'éclairage public. Nous en avons fait beaucoup. L'éclairage public a un impact terrible sur l'économie en milieu rural et périurbain, sur la sécurité dans ces milieux. Il y a beaucoup de ces projets. Et puis, nous avons tout un plan de recherche et développement pour des nouvelles technologies comme le biogaz dont nous parlions tout à l'heure et la géothermie et d'autres types de technologies. Parce que nous voulons vraiment y aller. Mais je vais laisser Monsieur Damien, qui est technicien, parler du projet Mbombo et du projet Katende. Merci.
Monsieur Damien, à vous la parole.
Oui, merci pour la parole. Mais je voudrais ajouter quelque chose d'important. C'est que il y a beaucoup de questions qui reviennent pour dire pourquoi seulement dans les milieux ruraux et vous ne venez pas dans les milieux urbains. C'est clair, comme l'a dit Madame Soraya, chacun reste dans sa zone de travail. Mais encore une fois, il faut que les gens sachent que l'électricité, c'est un droit constitutionnel. Chaque citoyen congolais, c'est un droit, a le droit d'avoir de l'électricité. Et j'ai expliqué au début ici que 80% de nos populations sont dans des zones rurales et périurbaines. Et dans ces zones-là, le taux moyen d'électrification, c'est 1%. Donc c'est une urgence. Alors comme nous, on nous a positionnés dans cette zone-là, c'est ainsi qu'on donne beaucoup d'efforts dans cette zone-là, mais comme l'a dit ma collègue, c'est que le travail que nous faisons dans les zones rurales et périurbaines aura un impact énorme sur l'évolution aussi dans des zones urbaines. Alors, au-delà de ça, il y a Monsieur Roger qui a posé la question sur Katende Mbombo. En fait, en serre, on n'a pas mis Katende particulièrement dans notre scope, mais nous parlons plutôt de Mbombo. Katende, il y a beaucoup de tractations qui se font aujourd'hui. C'est un projet qui a raté depuis des années, années.
Ça n'a pas commencé aujourd'hui.
C'est très complexe. Oui, c'est avant que je naisse, on parlait de Katende.
Déjà.
Vous imaginez, voilà. Donc, aujourd'hui, on laisse les politiciens terminer un peu les tractations autour de Katende. Mais nous, c'est Mbombo qui nous intéresse parce que Mbombo, le site est situé à plus ou moins 15 kilomètres de Kananga. Le site a un énorme potentiel. On peut aller jusqu'à 50 mégawatts. Mais aujourd'hui, le premier projet parle entre 10 et 20 mégawatts. Donc, les études sont en train d'être finalisées et nous sommes très déterminés à lancer Mbombo. Ça demande une petite patience à nos amis et Mbombo va arriver et évidemment, Kananga et ses périphéries seront éclairées et développées.
Alors, qu'est-ce que vous dites à ceux qui vous demandent de dresser un bilan?
Oui,
à ces jours, est-ce qu'on peut dire qu'Anser est en train de faire un bon travail. C'est, vous êtes déjà, on peut parler déjà d'une réussite, ou bien il y a encore le bilan mitigé, ou il y a encore beaucoup à faire.
Non, Madame Sora a été très claire sur cette question. Je peux juste peut-être compléter pour confirmer que à mi-parcours, le bilan positif. En réalité, les premiers fonds que nous avons reçus du gouvernement congolais datent d'il y a une année seulement. Et nous sommes opérationnels il y a à peine 3 ans réellement. Je disais que l'agence a été créée à 8 ans, mais nous travaillons il y a 3-4, ça c'est la 4e année en fait.
Et pourquoi le financement a tardé?
Mais c'est normal, vous connaissez, il faut que nous mobilisions. Il y a des démarches à faire au niveau de nos services du ministère des Finances. Il faut un plaidoyer et il y a eu toute une stratégie en tout cas mise en place pour pouvoir capter cet argent. Et puis nous sommes une jeune agence, c'est déjà une prouesse pour pouvoir capter ça. Et puis on pouvait pas non plus se lancer à la recherche des financements sans la planification. La planification elle-même nous a pris déjà le temps qu'il faut. Nous parlons de 145 territoires. Nous parlons de 100 millions d'âmes. Donc, ça nous a déjà pris le temps pour pouvoir mettre en place la planification. Et c'est ainsi qu'on s'est lancé à capter le financement. Et vous connaissez les mécanismes. Mais c'est quelque chose d'assez extraordinaire. C'est une première fois de recevoir, en tout cas, qu'une institution comme la nôtre reçoive autant, enfin, de quelques millions du gouvernement. Et on a lancé ça il y a à peine une année, le premier appel d'offres. Alors aujourd'hui, quand on fait le bilan, effectivement, je vous ai dit, nous avons 49 projets opérationnels. Quand
mais
je dis projets
déjà,
chantiers,
oui,
10 donc
projets
10 déjà livrés. Voilà, et on en a une trentaine qui sont sur les chantiers, et nous encourageons nos amis à aller visiter notre site. Ils vont découvrir évidemment les noms des sites, aller visiter des chantiers. On les encourage à pouvoir s'approprier finalement de ces projets, aller offrir une bouteille d'eau à l'ouvrier qui travaille là, parce que c'est pour eux en fait qu'on le fait. Et par rapport à ça, notre bilan est positif. Et deuxièmement, un autre aspect très important, je le dis, je le répète, c'est que nous ne considérons pas l'électrification comme une finalité si cela n'a pas un impact socio-économique. Ça veut dire, nous avons toute une direction des projets qui réfléchit sur le développement socio-économique des zones dans lesquelles on va implanter des projets. Aujourd'hui, nous venons de signer un contrat avec un bureau d'études qui aujourd'hui est sur les terrains en train de travailler pour nous des baselines, des études de base. C'est pour que nous puissions comprendre aujourd'hui quelle est la situation socio-économique, et d'ici 6 mois, on saura vous dire quel a été l'impact finalement de l'électricité sur cette population. Et au-delà de ça, une autre prouesse, c'est la capacité de pouvoir mobiliser le secteur privé national et international. On voyage beaucoup, et en voyageant, on a bien compris d'ailleurs l'intérêt énorme qu'a le secteur privé étranger par rapport au secteur d'électricité en RDC. Et finalement, aujourd'hui, nous sommes vraiment une porte crédible pour tous ces opérateurs internationaux qui toquent à nos portes et que nous
accompagnons. Mais pourquoi pas les entrepreneurs locaux aussi?
Ah oui, mais nous encourageons. Aujourd'hui, nous avons, par rapport au projet que nous avons lancé, les 49 projets, je vous surprendrai, c'est que 60% des entreprises qui ont gagné ces marchés, c'est des sociétés congolaises. Quand je dis de droit congolais, mais avec des capitaux congolais aussi. Voilà, donc, et ça c'est pour encourager évidemment l'entrepreneuriat local. Et d'ailleurs, toutes les autres entreprises dans les contrats qu'on signe, il est clairement stipulé cette dimension du transfert des technologies, transfert des compétences et des connaissances sur le chantier. Ils construisent, mais en même temps, ils transfèrent les connaissances aux locaux.
Voilà, Madame Soraya, un instant, je vais vous donner la parole, le temps d'accueillir 3 auditeurs. Le sujet intéresse tellement les auditeurs. Ézéchiel, vous êtes en Mbandaka, Augustin nous appelle de Kinshasa, et Maître Joseph de Bukavu. Ézéchiel Ndoumba de Mbandaka, bonjour.
Bonjour, Monsieur l'auditeur.
Bien, Ézéchiel, rapidement, quelle est votre question par rapport à l'électrification rurale?
Ah oui. À mon humble avis, je pense que chez nous ici dans la province de l'Équateur, nous sommes riches dans ce système-là. Vu un peu notre forêt qui est riche en carbone et qui peut alimenter un peu une partie de notre province, voire dans son entièreté. Et à mon humble avis aussi, je pense que non. J'encourage, je dis au gouvernement de nous aider à faire un peu à produire un peu du courant dans notre province riche avec les carbones qui peut nous produire un peu du courant pour la population et en bénéfice de la population. C'est ça un peu mon angle d'avis par rapport à ça.
Merci Ézéchiel. Augustin Kayembe, vous êtes à Kinshasa, bonjour, qu'est-ce que vous avez à nous dire?
Bonjour Radio Kati, je suis à Kinshasa et ma préoccupation se base beaucoup plus sur les barrages des KTND dans les Kassai centrales.
Oui.
Je voulais juste savoir si ces projets en question lancé par l'agence concerne aussi ces barrages qui datent, qui a connu plusieurs...
Non, Augustin, l'invité l'a dit, eux, ils sont pas sur Katende, c'est plutôt le Mbombo.
Oui, même celui de Mbombo, est-ce que nous pouvons en savoir plus? Parce que nous avons connu plusieurs lancements des premières pierres pour l'électrification de la province du Kassai-Kinshasa, mais en pratique, on constate peut-être que dans certaines villes, ça essaye de rouler, mais sauf au Kassai Central. Par exemple, vous allez voir, par exemple, Kitik avance bien. Si vous prenez Mbujima, il quand même s'avance. Mais si vous allez aller dans le système d'électrification de la ville, vous allez voir qu'il y a au Kassai Central se vide. Est-ce que ce projet prend aussi en compte cette province qui semble être abandonnée?
Merci, Augustin. Maître Joseph Oulimouengou de Bukavu, bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste, bonjour à tout le monde.
Qu'est-ce que vous avez à nous dire par rapport à l'électrification rurale et périurbaine?
Bon. Je ne sais pas si jusqu'actuellement le sujet d'électrification pouvait encore être soulevé à ce stade, d'autant plus que depuis longtemps, il y a des projets de gouvernement, les présidents sont venus, sont partis, ont mis l'électrification, l'électricité dans leurs projets, mais rien n'a été réalisé jusqu'à présent. C'est dommage qu'on peut attendre qu'il y a des liens en RDC à ce 21e siècle où il n'y a pas l'électrification pendant que nous avons tant de barrages. Maintenant, nous nous demandons, avec tout ce qu'on a étudié en géographie, c'est ça seulement mon analyse très simple. Qu'est-ce qui peut être à la base à ce que jusqu'à présent la RDC souffre encore de l'électricité? Pendant qu'il y a des pays qui n'ont aucun barrage, mais jour et nuit, il y a la lumière. C'est ça ce que moi, j'ai seulement me demandé.
Bien, merci Maître Joseph. Madame Soraya, vous avez la parole.
Merci beaucoup. Je vais, avant de répondre aux questions très pertinentes des auditeurs, rebondir sur la partie de l'usage productif. Peut-être qu'on peut aussi donner un bilan spécifique pour l'usage productif de l'électricité. Mmh. On va à Ipamou et Bongayasa, où nous avions lancé un projet pilote en 2021.
C'est où là?
C'est dans le Grand Bandundu, dans le Kwilu. Mmh. Et on a remarqué que la facture d'électricité que les gens payaient pour être connectés à des groupes électrogènes est passé de $30 à 30 000 francs. 30 000 francs, c'est légèrement plus que $10. Mmh. Okay? On a remarqué que les analyses de laboratoire sont passées de 10 000 francs à 4 000 francs. On a remarqué que pour moudre un kilo de manioc, on est passé de à peu près 1500 francs à 500 francs. Ça, ce sont des impacts économiques réels. Mmh. Et cet argent qui est économisé sur la facture d'électricité peut être réaffecté sur d'autres factures. Donc, il y a un impact réel dans la vie de la communauté. Pas seulement parce qu'ils peuvent voir la lumière et ils peuvent charger leur téléphone, mais parce qu'ils peuvent utiliser cette électricité pour produire encore plus d'argent, et cela change tout l'écosystème.
Mmh. Les abonnés payent.
Oui, les abonnés. Tout à fait, tout à fait. Les abonnés sont prêts à payer la consommation si le service rendu est bon. On a mené des enquêtes, même dans des milieux urbains ici à Kinshasa, il y a plusieurs personnes qui disent qu'ils sont prêts à payer légèrement plus s'ils sont convaincus que cette électricité viendra tous les jours et en quantité suffisante. Mmh. Donc les usagers sont prêts à payer, à mettre le prix. Alors pour répondre aux questions, je voudrais... J'espère que cette réponse va mettre fin définitivement à la question quand est-ce que vous venez chez nous, quand est-ce que vous venez en Équateur et tout. On a divisé le Congo en 6 espaces économiques que nous appelons poules et chaque poule a un bureau de coordination. Dans certains pools, le bureau de coordination a un deuxième bureau technique dans le même pool. Par exemple, dans le pool central qui comprend l'espace Grand Kassai, nous avons le bureau de coordination à Kananga et nous avons un bureau technique à Mbujimayi. Par exemple, en Équateur, nous avons le bureau à Mbandaka, mais nous avons un petit bureau technique à Guémena, ainsi de suite. Donc, nous sommes à travers toute la République dans ces 6 pôles. Il y a le pôle Est qui s'occupe de l'espace Grand Kivu, le pôle Grande Orientale qui est, comme son nom l'indique, c'est la grande province orientale, oui. Le pôle Grand Équateur, le pôle central qui s'occupe de l'espace Grand Kassai, le pôle Katanga et le pôle Ouest qui s'occupe des périphéries de Kinshasa plus Kwango, Kwilu et Maindombe. Alors, je pense que pour le reste, la question de Mbombo, encore une fois, va revenir au DGA.
Oui, le DGA mais a juste,
juste pour notre ami de qui vient de Bukavu, il a dit que nous avons plusieurs centrales. On se souvient, Inga, Nziku, Mwandigusha, Mpiana Mwanga et tout ça. On a étudié toutes ces centrales. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que ces centrales n'ont pas été maintenues. Elles ont été construites, mais la maintenance, il n'y a pas eu d'entretien, il n'y a pas eu de maintenance. Elles étaient sous la responsabilité de la SNEL. La SNEL, aujourd'hui, elle a connu quelques difficultés financières dont je pense qu'elle est en train de se sortir au jour d'aujourd'hui. Mais il y a eu des problèmes de gestion. Elle-même, en faisant son bilan des 40 ans, elle a remarqué qu'il y avait quelques problèmes de gestion, particulièrement dans la maintenance des infrastructures. Et ça, ce sont des choses qui sont en train d'être rattrapées aujourd'hui. Nous sommes en train de construire de nouvelles centrales. Il n'y a aucun pays qui a de l'électricité sans centrale. On peut ne pas avoir des centrales hydroélectriques, mais il y a quand même des centrales nucléaires, il y a des centrales thermiques, il y a des centrales avec du charbon, et c'est ça que nous sommes en train de faire aujourd'hui. On a fait passer le taux d'électricité, au moment où Anserre arrive, le taux en 2020, le taux d'électricité, d'électrification était autour de 15%. Aujourd'hui, nous sommes à 21%, à peine 4 ans après. Je pense que ce sont des avancées significatives dont on devrait être fiers, mais ne pas s'asseoir sur nos lauriers et continuer à travailler. Accélérer cette électrification.
Et surtout si on met à votre disposition les moyens nécessaires pour le faire.
Effectivement. Et quand l'État lui-même n'a pas les moyens, nous mettons en place toutes ces stratégies pour mobiliser le secteur privé. Le secteur. Effectivement.
D'accord. Monsieur Damien.
Oui, je répondis à la question de Monsieur Ezekiel, qui est en Mbandaka.
En Mbandaka,
et
oui.
Et qui a même évoqué la dimension de la forêt, du carbone. Mais j'ai déjà, en passant, puisqu'on parle de Mbandaka, l'Équateur, je signale que nous avons mis de l'éclairage public, 50 kilomètres, donc 10 kilomètres dans chaque territoire qui constitue Mbandaka. Et puis aujourd'hui, nous avons des projets qui se lancent à Bassankoussou et à Bongandanga, et le plan continue avec les autres territoires. Alors, c'est une question intéressante. Lorsqu'il évoque la forêt, il évoque le carbone. Aujourd'hui, au sein d'Anserre, on a mis en place une cellule stratégique qui ne réfléchit que sur les possibilités de capter le carbone, le crédit carbone. Comment est-ce qu'avec nos kilowattheures, on peut les valoriser en crédit carbone pour aller finalement investir dans des nouvelles installations de production d'énergie. Ça, c'est pour rassurer notre ami Ezekiel que c'est une réflexion qui est en cours et qui produira des résultats. Alors, je reviens encore à la question de M. Augustin Kayembe qui a constaté effectivement qu'il y a eu plusieurs fois des premières pierres et puis partout ça évolue sauf au Kasaï central. J'ai dit qu'au Kasaï central, on a déjà commencé à côté de l'aéroport de Kananga, la centrale est terminée.
Vous avez d'ailleurs demandé aux gens d'aller visiter.
D'accord. À Chimbou, c'est toujours dans le Kasaï central. Les constructions sont déjà en cours. Approchez la mairie. Elle vous indiquera les lieux de nos chantiers et c'est à visiter. Et j'ai insisté sur ce projet Mbombo. KTND, j'ai bien dit qu'il est très politique. On laisse des politiques régler ça d'abord.
Ça, oui.
Lorsque ça sera terminé, ils vont nous céder ça après pour que techniquement on puisse gérer. Mais Mbombo, nous sommes déjà dedans. Les études sont déjà en cours, en train de se finaliser. L'entreprise identifiée et nous allons y arriver. Nous produirons plus ou moins, du moins dans la première phase, une dizaine de mégawatts et ça convient normalement pour Kananga. Je finis avec la question de notre frère de Bukavu qui est une question émotionnelle quand même hein, lorsqu'il se dit qu'est-ce qui fait
depuis
que
depuis toutes ces années on n'a pas toujours de l'électricité.
Non mais c'est vrai, moi quand je suis arrivé avant d'être nommé DGA d'Anserre, j'étais d'abord coordonnateur du pool Grand Kasaï. Madame Soraya vous a expliqué quand on est déployé en 6 pôles, et bien moi je coordonnais le Grand Kasaï, ça veut Kasaï. Dire les 5 provinces du Grand Kasaï, et quand j'arrive là je parcours les Grands Kasaï. Et je passais la moitié de ma vie dans des zones rurales, dans des villages et tout ça. Et je me pose la même question en me disant comment avec tout ce potentiel que je viens de voir, 50 ans après, il n'y a pas d'électricité. Alors, une des réponses, c'est que je pense que depuis toutes ces années, il y a eu un souci sérieux de politique. Il y a eu d'abord un manque de politique clair d'électrification de la nation. C'est aujourd'hui que nous réfléchissons sur la politique nationale d'électrification. Oui. Deuxièmement, il y a eu un souci sérieux de volonté politique. Et tous ces paramètres sont réglés avec l'avènement de Félix Tshisekedi. C'est réglé et c'est pour cela c'est ce que justifie aussi la mise en place en serre avec les moyens que le gouvernement donne et tout ce qu'on mobilise. Nous sommes sur une très bonne voie de pouvoir répondre à cette question de manière opérationnelle.
Mais, ingénieur Damien Tombilangana, directeur général adjoint d'Anserre, merci.
Merci
à vous. Nous disons également merci à Madame Soraya Aziz, qui est directrice des communications et des mobilisations des partenaires. On aura l'occasion de vous recevoir prochainement. On va continuer la discussion.
Merci beaucoup, jeudi.
Mesdames et messieurs, c'est par ici que s'achève cette émission. Merci de l'avoir suivi. À la prochaine.